France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce petit matin. Au programme aujourd'hui, l'été est terminé mais il n'est jamais trop tard pour se protéger. On parle crème solaire, figurez-vous, dans les chroniques littorales. Quelle place pour les personnes âgées et isolées dans les quartiers? Question posée dans le premier grand reportage de France Inter à 5h40. Je vous propose aussi de prendre un verre avec notre invitée déjà debout. Elle travaille chez Duralex à la Chapelle Saint-Mémin. Un verre et une bonne rasade de douceur. La Britannique Alani est dans la playlist à 6h moins le quart. Et juste avant 6h, invitation à la désobéissance dans le Café Philo. C'est parti pour le 5-6 et je vous accompagne jusqu'à 9h. Et on commence avec le journal de Lucas Nitsch. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Dernier round de consultation avant la nomination du gouvernement.
Qui devrait probablement arriver ce week-end. Mais comment éviter la censure? C'est le défi de Sébastien Lecornu. Il reçoit ce matin dans son bureau Marine Le Pen et Jordan Bardella pour le Rassemblement National. Ce sera à 9h avant d'enchaîner avec les socialistes à 10h30. Objectif, les convaincre de ne pas renverser le prochain gouvernement. Du côté des socialistes, ça semble compliqué. Olivier Faure juge les propositions du Premier ministre très en deçà de ses attentes. Et au RN, on entretient le flou, Jérôme Val, la menace de censure n'a pas disparu.
Attention au jeu de dupes, prévient un cadre du Rassemblement National. Avant le rendez-vous de ce matin, Marine Le Pen et Jordan Bardella demandent au Premier ministre de ne pas faire semblant, de leur annoncer de véritables mesures, une rupture totale avec ses prédécesseurs, comme ils le réclament depuis 3 semaines, sur les classiques de l'extrême droite, la réforme de l'aide médicale de l'État, la politique migratoire, revoir la contribution de la France à l'Union européenne. Le RN a déjà prévenu, pas de censure avant d'avoir entendu Sébastien Lecornu lors de sa déclaration de politique générale, sans doute en début de semaine prochaine. Mais on ne s'interdit rien, répète un élu RN. Un scénario auquel ne croit pas la gauche, très remontée depuis hier, et l'attribution de 7 des 8 commissions permanentes à des députés du Bloc central avec le soutien des voix du RN. Résultat, accuse-t-elle, d'un accord de non-censure entre les deux blocs. Mais le danger, insiste un député socialiste, c'est que le Rassemblement national n'est pas un partenaire fiable. Alors à force de souffler le chaud et le froid, le RN serait-il en train de jouer sur les deux tableaux?
Et de leur côté, les Républicains font monter les enchères. Leur participation à un gouvernement n'est pas acquise, menace hier soir leur patron Bruno Retailleau. Le compte n'y est pas. Il exige un tiers des postes au gouvernement, mais aussi une réduction des dépenses publiques et des nouvelles mesures sur l'immigration. Un autre dossier sur le bureau de Sébastien Lecornu, la loi contre les dérives de la fast fashion. Ce texte qui vise à réduire l'impact environnemental de la mode est bloqué depuis le mois de juin. Mais l'annonce avant-hier de Chine pourrait bien accélérer le calendrier. La marque d'ultra fast fashion a choisi la France pour implanter ses toutes premières boutiques physiques. Plusieurs députés ont donc écrit hier au Premier ministre pour demander une accélération de l'entrée en vigueur de cette loi.
Après le Danemark, la Pologne et la Norvège, des drones ont été repérés dans le ciel allemand.
Au-dessus de l'aéroport de Munich, qui annonce donc cette nuit avoir dû suspendre son trafic aérien. 17 vols annulés hier soir, des perturbations pour quelques 3000 passagers. 15 autres vols qui devaient atterrir dans la capitale bavaroise ont été détournés vers Stuttgart, Nuremberg, Vienne et Francfort. Avoir permis les vols de certains drones, c'est justement ce dont est suspecté le navire pétrolier russe qui a été intercepté avant-hier près des eaux françaises au large de Saint-Nazaire. 2 membres de son équipage sont placés en garde à vue, l'enquête est toujours en cours, et des vérifications sont menées pour savoir si ce navire a un lien avec les drones qui ont survolé le Danemark en septembre. Hypothèse balayée par le président russe Vladimir Poutine.
C'est un acte de piraterie. Le pétrolier a été arraisonné dans des eaux neutres, sans aucune raison valable. Apparemment, il cherchait à bord des cargaisons militaires, des drones ou autre chose de ce genre. Il n'y avait rien de tout cela, et il ne pouvait y avoir quoi que ce soit. Le pétrolier bat effectivement pavillon d'un pays tiers, et son équipage est international. Je ne sais honnêtement pas dans quelle mesure cela concerne la Russie. Mais de quoi s'agit-il réellement? Pourquoi est-ce si important pour la France? En raison de la situation politique difficile des dirigeants français, parce qu'ils n'ont aucun autre moyen de détourner l'attention de la population, des citoyens français, des problèmes complexes et difficiles à résoudre au sein même de la République française.
Vladimir Poutine, vous l'entendez, qui ne mâche pas ses mots pour critiquer Emmanuel Macron. De son côté, le président de la République a appelé les Européens hier à mieux lutter contre la flotte fantôme comme russe, ces bateaux enregistrés sous d'autres nationalités qui permettent à Moscou de contourner les sanctions pour exporter son pétrole. Des bateaux interceptés près des côtes égyptiennes cette fois-ci, la flottille pour Gaza, ce convoi humanitaire d'une quarantaine de navires, a été arraisonné avant-hier par l'armée israélienne. Les militaires ont arrêté 400 militants, parmi eux une trentaine de Français, dont un député LFI, un élu CGT et un journaliste de l'Humanité. Ils devraient être expulsés vers l'Europe aujourd'hui.
Au Royaume-Uni, l'enquête avance après l'attentat devant une synagogue hier.
Une attaque à Manchester, dans le nord du pays, qui a fait 2 morts et 4 blessés, alors que de très nombreuses personnes étaient réunies pour la fête juive de Yom Kippour. L'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre. 3 de ses complices présumés ont été arrêtés hier soir. Et on en sait plus sur le profil du suspect, Gaël Joly, correspondant de France Inter à Londres. Il est d'origine syrienne.
D'après la police de Manchester, l'assaillant est un Britannique de 35 ans, d'origine syrienne. Son identité a été confirmée hier soir. Il a été abattu après avoir foncé en voiture sur des fidèles devant la synagogue avant de les poignarder. Sur ces images authentifiées de l'attaque, le terroriste semble porter une veste qui ressemble à une ceinture explosive. Reculé, il a une bombe, hurle la police. Mais les enquêteurs ont précisé par la suite qu'elle n'était pas opérationnelle. 3 suspects, 2 hommes âgés d'une 30aine d'années et une femme âgée d'une 60aine d'années ont été placés en garde à vue, soupçonnés d'avoir commis, préparé et incité à commettre des actes terroristes. Stephen Watson, de la police du Grand Manchester, a tenu à saluer la bravoure des fidèles pendant l'attaque.
Il y avait de nombreux fidèles devant la synagogue au moment de l'attaque. Et grâce au courage des agents de sécurité et des fidèles, ainsi que de la police qui est intervenue très rapidement, l'assaillant n'a pas pu rentrer dans le bâtiment. Et il a été abattu seulement 7 minutes après le premier appel.
Depuis hier, des renforts de police ont été déployés devant toutes les synagogues du Royaume-Uni. À Manchester, Gaël Joly, France Inter.
En France, une porte vitrée brisée en plusieurs morceaux et un store plié par le choc après le pillage d'une boutique Chanel à Paris. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi. 4 hommes cagoulés ont enfoncé la porte d'entrée avec une voiture bélier. Ils ont ensuite volé des sacs de luxe, puis pris la fuite avec un autre véhicule. Le montant du butin est encore inconnu et les cambrioleurs, eux, sont toujours en fuite. Un peu moins d'une heure maintenant avant le rendez-vous de l'année pour les Swifties, les fans inconditionnels de Taylor Swift. La chanteuse sort son nouvel album The Life of a Showgirl dès 6h. Celle qui aime organiser des jeux de piste habituellement pour ses fans a donné cette fois-ci peu d'informations. On sait qu'il va être orange pailleté pour aborder, je cite, la période la plus joyeuse, la plus intense et la plus folle de sa vie.
Et c'était le journal de Lucas Nitsch. Il est 5h07 sur France Inter.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Un temps à nouveau perturbé, Elodie Calac.
Changement de temps, la perturbation arrivée par la Manche dans la nuit s'étend ce matin de la Bretagne vers la Normandie et le Pas-de-Calais. Le ciel est gris, parfois pluvieux, il y a du vent aussi. Un vent de sud-ouest jusqu'à 50 à 60 km à l'heure près des côtes. Cet après-midi, les pluies se renforceront un peu. Elles progresseront vers les Charentes, le centre-val de Loire, le bassin parisien et les Ardennes. Ce temps perturbé gagnera ensuite le nord-est en soirée. Ailleurs, le ciel est souvent très nuageux, très voilé sur le sud et l'est. Une averse est possible sur la côte d'Azur ce matin. On trouve tout de même du soleil du Languedoc à l'ouest de la Provence ce matin. C'est le cas aussi en Corse pour la journée. Les températures gagnent parfois quelques degrés. Ce matin, comptez 3 à 8 degrés à l'est, 9 à 14 ailleurs. Cet après-midi, petite baisse au nord avec 14 degrés à Colmar, 16 à Dijon, 17 à Lille, 18 degrés à Paris, 20 degrés à Angers et à Grenoble, 21 à Rennes, La Rochelle, Saint-Étienne, 22 degrés à Bordeaux, à Martigues, 24 à Toulouse et Ajaccio et 25 à Perpignan.
Élodie Calac de Météo France.
France Inter. Marion Lourd, le 5-6.
5h08, à suivre sur France Inter, un marin qui pense à l'océan et à notre peau dans les chroniques littorales. Notre invitée déjà debout, elle travaille tôt le matin chez Duralex. Vous savez, là où on fabrique les verres qui nous donnent nos âges. Bouger une capitale et la recréer ailleurs, il sera question de Nusantara dans la chronique d'où ça sort. Et puis Tanguy Pastureau maltraite l'info et même les animaux, ça c'est à 5h25. Mais avant tout ça, de la musique et de l'amour ou pas avec une artiste en playlist France Inter, L'amour de ma vie, en français dans le texte par Billie Eilish.
I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes. But I need to confess, I told you a lie. I said you I break your heart? Did I waste your time? I tried to be there for you, then you tried to break mine. It isn't asking for a lot for an apology, for making me feel I could kill you if I tried to leave. You said you'd never fall in love again because of me, then you moved on immediately. But I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes. But I need to confess, I told you a lie when I said to you, you were the love of my life, the love of my life. So you found her, now go fall in love, just like we were. If I ever was, it's not my. Losing my mind, my stomach upset almost all of the time. But after I left, it was obvious why. Because for you, you, I was the love of your life.
Billie Eilish chante L'amour de ma vie, titre sorti cette année, version éditée dans la page de la playlist de France Inter et à retrouver sur son album Hit Me Hard and Soft. 5h12 sur France Inter, c'est l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Aujourd'hui José-Manuel, vous nous présentez un navigateur français.
Oui Marion, un skipper cosmétique, il s'appelle Yann Delplace. C'est un skipper mythique, son voilier est French Kiss, il est de Nice. De tout petit, il a toujours navigué. Vainqueur de la Transat Classique 2012, vice-champion d'Europe de voile, 60 000 marins de course au large en solitaire. Bon voilà, c'est le navigateur chevronné qui est avec nous aujourd'hui. Yann Delplace, bonjour.
Bonjour.
Yann Delplace, French Kiss, c'est votre bateau. C'est un bateau qui a fait à l'America's Cup. Vous l'avez acheté en copropriété.
Oui.
Bon, super voilier. Et seulement, voilà, vous, le grand skipper, l'homme qui navigue, parce que la mer, pour vous, ça veut dire quelque chose.
Oui, ça veut dire quelque chose.
Eh bien, vous êtes blond. Et vous êtes aperçu un jour que la peau de blond, quand on est skipper avec le soleil...
C'est pas compatible du tout avec le soleil. Donc j'ai beaucoup souffert parce que je suis originaire du nord de la France. J'étais parachuté à Ajaccio pour mon métier. Et là, c'était 3 ans de souffrance complètement horrible, puisque j'avais un chèche autour de la tête pour me protéger du soleil. Je mettais de la crème solaire pour me protéger. J'en mettais toutes les 20 minutes. Je la trouvais pas très efficace. Et en 2016, je me suis rendu compte aussi que la crème solaire n'était pas non plus écologique. Donc j'ai trouvé une formule écologique et de proposer à moi-même d'abord et au grand public une crème solaire qui soit irrespectueuse de l'océan et qui protège correctement la peau.
Et c'est la crème solaire qui s'appelle French Kiss, le nom du bateau.
Voilà, donc une peau de blond, ch'timi, le soleil, la mer, un problème à résoudre, la protection solaire. Et deuxième problème à résoudre, qui est venu le premier problème pour moi à résoudre, c'est la protection des océans.
Parce que la crème solaire et l'océan, c'est pas bon.
Non, c'est pas compatible du tout. Il n'y a aucune crème solaire qui fait du bien. Toutes les crèmes solaires du marché font du mal à l'océan. Moi, j'ai trouvé une crème solaire qui fait, on peut dire, à 0,3% du mal à l'océan, contre 60% des autres crèmes solaires, mais on vise le zéro. Pour l'année prochaine, j'espère. Et j'ai fait une rencontre avec Mike Horn il y a un an et demi.
Mike Horn, le grand skipper.
L'aventurier, et qui m'a dit, ta crème solaire, le produit est certainement fantastique, mais ton plastique pollue les océans. Donc je lui ai dit, écoute Mike, donne-moi 4 mois pour trouver une solution. Et j'ai transformé le packaging en fait en un distributeur de crème solaire 1000 doses qui a permis de supprimer totalement le packaging des crèmes solaires.
Comme vous êtes un marin, dans tous les yacht clubs, en ce moment à Nice, à Monaco, mais bientôt ailleurs, il y aura toujours des distributeurs de crèmes solaires.
Le club de Monaco et le club de France nous suivent dans cette aventure. sûr. Le but, c'est de commercialiser ça à l'ensemble des yacht clubs et surtout des ports avec les allants portuaires qui sont exposés autant que moi au soleil.
Yann Delplace, 2026, combien de courses prévues?
Alors, 5 ou 6 avec le voilier French Kiss sur le circuit classique, avec un championnat du monde, certainement au mois de septembre, qui réunira ces bateaux qui me font complètement rêver, c'est les 12 mètres, donc la classe America. French Kiss en fait partie, mais il y en aura beaucoup d'autres. Il y a aussi un troisième bateau qui est arrivé depuis le mois de juin, qui est un bateau de course au large, complètement mythique, avec lequel on va faire des régates offshore, du coup, en Méditerranée, donc les 600 milles de Saint-Tropez ou la Giraglia. Et moi, mon objectif ultime, c'est la Route du Rhum en 2030, avec un bateau absolument fantastique, le plus rapide de sa catégorie, Bella Monte, pour ceux qui connaissent ces bateaux-là, côté des États-Unis, sur ce bateau, prévu pour 25 personnes, donc le faire en solitaire.
Ah oui.
Voilà, ça c'est le premier grand objectif. Donc le défi, en fait, c'est de naviguer à 60% des capacités de ce bateau en solitaire, plutôt qu'à 110% sur des bateaux plus petits, moins performants. Qui aura raison? Est-ce que c'est un grand bateau qu'on exploite à 60% ou un petit bateau moins performant mais qu'on exploite à son maximum? Eh ben, 2030 nous donnera la réponse. Et c'est un bateau complètement fantastique, 23 mètres en carbone, avec des performances de 35 nœuds de vitesse au portant. Et l'objectif, c'est de naviguer vraiment sur ce bateau-là en solitaire et ne pas monter à 35 nœuds, mais monter à 20 nœuds.
Voilà.
Et de faire une première place.
Alors 25-35, on multiplie par 1,8, hein, voilà. C'est à peu près 50 km/h ou sinon voilà. Moins de 70 km/h.
Pour une voiture, c'est pas très rapide, mais sur l'eau.
C'est extrêmement rapide. Merci à vous, Yann Delplace.
Merci à vous.
Un site internet frenchkiss-sunker.com. Bonne journée, Marion Lourd.
Bonne journée, José-Emmanuel Lamarque.
Le 5-6. Sur France Inter.
Et il est 5h16, il est question de guerre à la une de vos journaux ce matin. La guerre des nerfs, la guerre hybride. Le Parisien affiche en une le visage de Vladimir Poutine, les yeux tournés sur le côté. Selon le quotidien, le président russe ne cesse de tester les capacités de défense des pays alliés de l'Ukraine et d'influencer les opinions. En Europe, la riposte s'organise, commente le journal. C'est de cette riposte qu'il est question dans l'opinion. L'Europe face au stress test, titre le quotidien. Drones, sabotage, cyberattaque. Les Européens ont un discours de fermeté, mais, estime le journal, mais pas de nouvelles initiatives. CAC caricature d'ailleurs des dirigeants européens s'interrogeant devant un drone à l'effigie du chef d'État russe. Comment être sûr que c'est un coup de Poutine, se demande Macron. Le même quotidien aborde en manchette dans l'édito les dangers d'un budget de survie. Je cite « Le kit ou double de Le Cornu », martèle de leur côté les Échos, puisque le Premier ministre doit mener aujourd'hui, je cite, « ses ultimes consultations ». Matignon assure le journal « met sur la table plusieurs mesures fiscales pour accroître le pouvoir d'achat des ménages ». Fiscalité, sécurité, Retailleau met la pression sur Le Cornu, relate Le Figaro. Le président LR menace même de ne pas participer au gouvernement. Un autre budget important lui aussi, mais une institution également, en une de l'humanité, la Sécu. Remède au capitalisme, c'est le titre. Elle fête ses 80 ans. Gros sous encore, Libération dévoile, je cite, les étonnantes notes de frais des élus parisiens. Frais de représentation fixés à 11 000 euros par an. Face à tout ça, et pour rester en forme, vous reprendrez bien un peu de viande. Protéines, une faim en soi, faim FIM. C'est le titre de une des Échos Week-end sur ce nutriment devenu peu à peu notre obsession. Bon appétit quand même. 5h18, une nouvelle capitale politique en Indonésie en 2028. En cause, la montée des eaux et la surpopulation qui touche Jakarta, actuelle capitale du pays. Le gouvernement a donc décidé de transférer sa capitale à Nusantara. C'était le sujet de Zoom Zoom Zen hier, l'émission de Mathieu Noël. Et on se tourne vers Cyril Lacarrière qui nous explique Nusantara, d'où ça sort.
Alors on y va. Imaginez une capitale qui coule littéralement. La ville est bien engloutie par la mer. Une capitale asphyxiée par ses 30 millions d'habitants. Alors on construit une capitale flambant neuve, une capitale créée de toutes pièces en plein cœur de la jungle de Bornéo. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est Nusantara, la nouvelle Jakarta. Nusantara, c'est un mot sanskrit qui signifie archipel, budget du projet plus de 30 milliards de dollars. Et pourquoi il a fallu une Nusantara? Eh bien parce qu'une partie de Jakarta pourrait disparaître d'ici 2050. C'est en 2019 que le président Joko Widodo tranche, l'Indonésie doit se doter d'une nouvelle capitale. L'objectif, créer une cité verte et high-tech, alimentée par les énergies renouvelables et traversée par des bus autonomes. L'Indonésie voit cette ville comme une vitrine du futur, un peu comme Wakanda dans Black Panther. Ceux qui ont vu le Disney comprendront.
Mais tout le monde n'adhère pas, c'est ça le problème.
Et bien sûr que non, en effet. Les opposants reprochent au président Widodo des destructions écologiques, des déplacements forcés de populations locales. Et puis, il y a évidemment l'aspect financier. 30 milliards de dollars quand 9% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Forcément, ça leur laisse penser que Joko Widodo veut surtout laisser son empreinte dans l'histoire, à voir ce que fera son successeur, Prabowo Subianto de cette Nusantara.
C'était Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël Zoom Zoom Zen que vous pouvez retrouver avec toute l'équipe tout à l'heure à 16h. Il sera question de féminisme washing et de l'affaire Patrick Henry en 1977. 5h20 sur Inter. Dans un instant, l'humour et le journal. Mais tout de suite, un jeune rappeur lyonnais, Okis, en duo avec le producteur et beatmaker Many Days. Ça s'appelle Magnum.
Petits artistes, on tire de bien grosses ficelles. Là c'est parti, je deviens je sais pas qui, mais au moins c'est officiel. Petit rigolo, grand triste et futur apprenti beatmaker avait senti pousser les centristes et les charcutiers traders. Insulte les fakes, ajoute les faits, ajuste les faders. La vie c'est une pute, mais elle peut pas trop me parler de ses problèmes, c'est trop bête. Là je peux plus verser une thune, mais chat là je fais pas de clip ou en fait c'est une pub pour Citroën. Je l'ai su en dressant le shit coupé, ils veulent voir ça, j'en blazer. Dans le foot depuis coupé, je m'en fous de l'argent des glazers. La vie c'est facile quand tu crois que tu peux pas débarrasser d'elle. Je trouve y'a trop de nazis, mais y'a pas assez de haine. Jamais je foire une balade, excuse tu me parlais, je sens pas la gravité. Juste, j'avance dans mon corps et juste j'ai plus de balafre. Bien ou bien, ça va?
Ouais, super, mais j'sais pas qui.
Tu fais quoi là? Moi je place pour un pote. Son blast c'est Many Days et c'est un truc de malade.
Magnum, la moustache de Magnum.
Magnum.
Couch là, ça sort le Magnum.
Magnum,
Magnum après Magnum. Bout de glace sur la moustache.
Magnum,
la moustache de Magnum.
Magnum,
couch là, ça sort le Magnum.
Magnum,
Magnum après Magnum. Bout de glace sur la moustache.
Magnum,
j'suis la cinquième étoile de Scolari. J'ai 99 dans Konami. Frappe d'Adriano. Okis Mani, on plie comme Ori. Gami tient la rime gratos. Des gains d'anciens tellement impeccables. Prince des régulars, des ordinaires. Rap comme personne. Classe comme Bergkamp à Saint James Park. J'suis Boldy James sur du Portichet. Enfant du vinyle et de la Motown. Dell Honor, ça all eyes on me. J'entends leur zumba lamentable. C'est la mota derrière un cardioïde. Façon puzzle, on t'éparpille. Flagrant silence comme Rowan Atkinson. Verbal Kim, Days l'artiste.
Magnum, Paroki, c'est Many Days. Leur nouvel album Triple Crème est sorti en septembre.
France Inter.
À 5h23, l'humour de Tanguy Pastureau. Aujourd'hui, il s'en prend aux écureuils dont on devrait se méfier.
Je ne sais pas si vous aimez la nature, moi si, mais domestiqué. Déjà chez Truffaut, quand quelqu'un a déplacé les bacs de géranium dans le rayon des pétunias, j'hyperventile. Je pense être quelqu'un qui a besoin de structure, donc la jungle, c'est pas pour moi. Rendez-vous en terre inconnue, je refuse. Ils me l'ont pas proposé, mais j'anticipe. En revanche, le jardin des Tuileries, ça j'aime. Les buissons sont taillés au centimètre près. Ça ressemble plus à une épilation au laser qu'à du jardinage. Je pense qu'à Paris, au service espace vert, ils ont pris des esthéticiennes. Il y a des bosquets, tu te dis, c'est un maillot brésilien, quoi. Et hier, j'ai eu envie de nature, mais sauvage, parce que je suis très écolo. Donc j'ai pris mon 4x4, direction Fontainebleau. J'adore la nature. Je me suis garé dans une clairière. J'en ai profité pour vider le cendrier de la Jeep. Et je me suis enfoncé dans les bois à pied. J'ai avancé de 2 mètres, difficilement, parce que je traînais le lave-linge en panne pour le laisser dans un tas de bonnes. Et là, j'ai fait demi-tour parce que j'ai fait l'erreur un jour de regarder le projet Blair Witch. Et depuis branches qui s'entrelacent, je panique. Ça me fait souvent ça, les films. Depuis Les Dents de la Mer, j'ai peur des requins. Depuis Speed, j'ai peur des transports en commun. Depuis Speed 2, j'ai peur des suites. Depuis Automobile, j'ai peur du cinéma français. Bref, J'ai fui. D'autant que je craignais en plus de croiser un écureuil. Ça paraît gentil, les écureuils, mais c'est fourbe. Ça attaque quand on s'y attend pas. Des salauds, oui. Je vous explique pourquoi je dis ça, parce que vous pourriez penser que je suis déséquilibré psychologiquement.
Non.
Oui, mais pas seulement. J'ai lu des articles sur un écureuil en Californie qui attaque les gens. Il n'a pas peur, ils sont tous armés là-bas. Moi, aux États-Unis, si je dois me gratter la tête, je le fais tout doucement pour qu'on n'imagine pas que je vais sortir un gun, parce qu'il tire avant que tu aies atteint le bas de ton front. Ça se passe à San Rafael, 60 000 habitants. Un écureuil terrorise la ville. Mmh. L'écureuil, vous voyez, c'est cet animal roux avec une queue touffue qui ressemble à Ed Sheeran s'il s'était fait friser des poils des fesses. Bon, bah, l'écureuil, sur le papier, bon, n'est pas un animal effrayant. Un grizzly, tu peux dire, j'ai eu tort de m'aventurer dans cette grotte qui sentait fort le miel. Un écureuil, tu as l'impression que si tu fais boue, il s'en va. Grave erreur. Il cache son jeu, comme tous les êtres chétifs. Rachida Dati, elle va faire 44 kilos. Mais elle est capable de faire sortir 700 gauchistes d'un coup en foutant le feu au chapiteau du Festival International du Sarouel. Toujours se méfier des petits. Les chiens, c'est souvent les Yorkshire qui t'aboient dessus. Ils ont un chouchou rose sur la tête. La moitié de leur poil a traîné dans le pipi, mais tu mets la main, ils t'emportent 4 doigts. Au Hellfest après, tu veux faire le signe de la bête. On dirait que tu demandes à la maîtresse si tu peux prendre la parole. San Rafael, Californie, USA. John, une habitante témoigne. L'écureuil a sauté. J'ai voulu protéger mon visage, mais mon bras à tout prix, j'étais couverte de sang. Isabelle, 39 ans, l'écureuil s'est accroché à ma jambe. Il m'a mordu pendant ma balade, parce qu'en plus, on est sur un écureuil qui ne respecte pas les temps de pause. Dimanche matin, en pleine messe, il est capable d'arracher le nez du curé. C'est un psychopathe, tic et tac sous acide. Déjà 5 agressions et 2 hospitalisations. Cet écureuil est un malade. Une autre femme dit, il était accroché à ma jambe, je criais, lâche-moi. Alors, ça ne sert à rien. Hein, déjà dire ça à un mec Yves qui cherche la bagarre, ça marche pas, il n'y a pas de raison que ça fonctionne avec un écureuil. Et puis, école du kung-fu, on respecte son adversaire, pas de tutoiement avant le 32e combat. Tout ça pour vous dire que la ville de San Rafael vit dans la terreur. Dès qu'il se passe un truc en ville, on pense que c'est l'écureuil. Un braquage de banque, le shérif demande, je sais pas, il avait pas de grandes oreilles par hasard, est-ce qu'il sentait la noisette, hein. On met tout sur de l'écureuil, les gangsters avant bouffent des M&M's. Des affiches pour prévenir des attaques de l'écureuil, c'est véridique, ont même été posées. Bref, c'est marrant de voir ces grands couillons d'Américains surjouer la virilité, ils tirent à la Kalachnikov sur des boîtes de soupe en hurlant, et là, un écureuil, tout leur système est par terre. D'où mon idée. Pour clore la guerre en Ukraine, que Trump ait son Nobel de la paix et s'apaise enfin. On attrape l'écureuil, à l'issue d'une battue de 700 000 hommes. On le met dans une fronde géante construite par Zelensky avec ses vieux pulls. Et on le projette en zone russe. L'écureuil repère Poutine, homme qui en plus ressemble fort à une noisette. Terminé, parce que les missiles, les drones, ça a échoué. Envoyons l'écureuil. Et alors, la télé américaine a quand même demandé à des spécialistes des écureuils, que faire en cas d'attaque, hein, on en est là. Bientôt, il y aura un guide de survie au cas où une coccinelle vous regarde mal ou si un raton laveur vous plaque au sol. Alors d'abord, pourquoi l'écureuil attaque, hein? Eh bien parce qu'il a faim.
Manger.
Il a faim, voilà. Son habitat se restreint à cause de l'homme, sa possibilité de se nourrir aussi. C'est pour ça que la faune sauvage à chaque fois s'aventure en ville. Je le sais, hier à dîner, chez moi on était 7, dont 4 sangliers. J'avais fait du rôti de porc, je vous raconte pas le malaise. Un marcassin a cru que c'était son oncle naturiste que j'avais fait cuire. Donc les écureuils associent les humains à la nourriture. Ça fait pareil sur la côte avec les goélands. Hein, 5 ans que j'ai pas bouffé une gaufre. Il y a toujours un qui me l'arrache des mains avant. Le même, j'ai fini par comprendre qu'il préférait celle au chocolat blanc avec 2 toppings. Donc je prends directement celle-là. Que faire si vous vous retrouvez face à un écureuil comme celui de San Rafael? Je vous lis le conseil d'une spécialiste, puisqu'on a des auditeurs des Landes qui sont peut-être actuellement cernés par des écureuils qui vont crever. Il faut rester immobile et calme et ne pas avoir de nourriture proche de vous. Voilà, si vous revenez du Carrefour Market, vous prenez vos sacs et vous les jetez le plus loin possible. Pendant que les écureuils découpent vos conserves avec les dents, fuyez et venez habiter Paris. Ici, on n'a que des rats qui sont très sympas. Il n'y a pas une attaque. Même Oldelaf qui nous apporte du chocolat au bureau, c'est lui la personne gentille de l'équipe. Eh ben, il n'arrive pas de couvert de sang à la radio. Donc, méfiez-vous en tout cas des écureuils. Merci.
Tanguy Pastureau du lundi au vendredi dans la bande originale de Nagui et Leïla Kadour Boudadi qui reçoivent tout à l'heure la sociologue Irène Théry et l'actrice Elsa Silberstein dans une poignée de secondes le journal.
France Inter présente
Kidnappé, une série d'affaires sensibles.
Fabrice Drouel.
PDG, fille d'écrivain à succès, champion automobile ou enfant d'une célèbre dynastie, il et elle ont en commun d'avoir vu leur vie suspendue pendant quelques jours ou quelques semaines. Il et elle ont été enlevés, séquestrés.
Affaires sensibles.
La série Kidnappé à télécharger sur l'appli Radio France.
Il est 5h29 sur France Inter. Mais qui voilà, c'est Ali Badou qui vient
mais
de
oui,
rejoindre
c'est
dans
moi,
ce
je
studio.
Suis apparu, oui.
Je suis
comme
tellement
par magie.
Surprise. Bonjour,
bonjour
Ali. Alors, au programme aujourd'hui de notre 6-9.
Alors, à 6h20, votre invité sera l'activiste pour la justice sociale et climatique, Camille Etienne. Elle quitte la France mardi à la voile pour rejoindre le Brésil et la COP30 et elle répondra à vos questions avant ce grand périple. À 8h moins le quart, rendez-vous pour le débat éco avec Thomas Porcher et Dominique Seux. Il sera question du budget avec le pré-projet de Sébastien Lecornu. Les prévisions de croissance sont-elles crédibles et quelles économies peuvent être imaginées? Quelles nouvelles dépenses également? À 8h20, un grand entretien exceptionnel, un dialogue entre Tala Albana, qui est étudiante palestinienne de Gaza, et Michelle Amzalak, qui, elle, est étudiante israélienne à Jérusalem. Elles publient toutes les deux Nos cœurs invincibles, une correspondance parue chez Flammarion entre une étudiante à Gaza et une étudiante en Israël. C'est à ne pas manquer et ce sera dès 8h20.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
France Inter, il est 5h30. Le journal, Luc Anich, bonjour.
Bonjour.
Au Maroc, les jeunes dans la rue, encore hier soir.
Pour la 6e journée consécutive à l'appel d'un collectif nommé Gen Z 212. Le mouvement a été déclenché après la mort de 8 femmes enceintes dans l'hôpital d'Agadir. Ce mouvement s'organise sur le réseau social Discord où 150 000 membres discutent de leurs revendications, la lutte contre la corruption, plus de services publics et plus de services de santé. Les jeunes se veulent pacifiques, mais le mouvement a déjà fait 3 morts et plusieurs centaines de blessés. À Casablanca, le reportage de François Ferkataji.
Le peuple veut la santé et l'éducation. Encerclés par des policiers en uniforme ou en civil qui observent sans intervenir, les manifestants répètent leurs demandes pour des services publics de meilleure qualité.
On demande 3 choses, la qualité de la santé, la qualité de l'éducation et l'égalité sociale.
Ce jeune homme regrette le silence du roi du Maroc depuis le début du mouvement de contestation et lui demande d'agir.
J'ai des amis, j'ai des cousins qui ont des problèmes de santé, qui ne trouvent pas les soins basiques pour survivre et ça c'est un problème.
Les protestataires comme Hassan, 22 ans, ne veulent plus de projets d'infrastructures onéreux qui servent de vitrine à l'international pour faire briller l'image du Maroc.
Nous voulons que le gouvernement cesse de dépenser des millions et des milliards dans des projets qui ne bénéficient pas aux citoyens de base.
En premier lieu desquels des stades construits pour la CAN et la Coupe du Monde 2030.
Depuis que notre gouvernement a décidé de faire de la Coupe du Monde et du football sa priorité, plutôt que notre santé et notre éducation, on a commencé ce mouvement et on proteste.
Le groupe Gen Z 212 a l'origine de ce mouvement contestataire rassemble désormais plus de 180 000 membres sur le réseau social Discord. François Ferkataji, Casablanca, France Inter.
En France, une sécurité renforcée autour des synagogues. C'est l'annonce du ministre démissionnaire de l'Intérieur Bruno Retailleau hier soir après l'attentat à la voiture Bélier et au couteau devant une synagogue à Manchester au Royaume-Uni hier matin. Alors que de nombreuses personnes se rassemblaient pour la fête juive de Yom Kippour, l'attaque a fait 2 morts et 4 blessés. L'assaillant a été abattu et 3 personnes soupçonnées d'être ses complices ont été arrêtées.
Un réfugié soudanais jugé dans un dossier de triple meurtre.
Le procès s'ouvre aujourd'hui aux assises du Maine-et-Loire jusqu'à vendredi prochain, il y a 3 ans, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2022, un homme tuait 3 jeunes de 16 à 20 ans à Angers. Il en blessait 3 autres. L'affaire avait beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, avec notamment des commentaires de Marine Le Pen et Éric Ciotti, Marion Aquilina.
Les familles des victimes veulent voir le visage de cet homme, un inconnu qui a poignardé 6 jeunes à Angers. 3 sont décédés. Maître Pascal Rouillet défend les proches de 2 victimes originaires de Wallis.
C'est un garçon qui va fracasser 3 vies, 3 familles. On sait que la soirée débute avec une altercation mineure et sans gravité parce que l'auteur des faits aurait importuné des jeunes filles et les garçons se mettent en protection, éloignent celui qui perturbe une soirée. Ça devait s'arrêter là et il va aller s'armer pour l'occasion, revenir pour retrouver ceux qui l'ont écarté et les tuer les uns après les autres.
L'accusé était très alcoolisé ce soir-là et assure qu'il ne se souvient de rien. Cet homme d'une 30aine d'années, originaire du Soudan, dit avoir traversé la Libye et l'Italie avant d'arriver en France en 2016. Il obtient le statut de réfugié 2 ans plus tard. Mais suite au triple meurtre, l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés, le lui retire. Ce drame survenu à Angers a suscité des dizaines de milliers de commentaires sur les réseaux sociaux et la colère d'Éric Ciotti et Marine Le Pen. Ukraine. Mais les familles des victimes ont dénoncé cette récupération politique de l'extrême droite.
Le récit de Marion Aquilina, 20 ans de prison pour celui qu'on surnomme le violeur de Tinder, Salim Berada, ex-photographe marocain condamné en appel hier à la peine maximale qu'il encourait, coupable d'avoir violé ou agressé sexuellement 17 femmes entre 2014 et 2016. Il les contactait via l'application de rencontre et prétextait des séances photos. La cour est allée au-delà des réquisitions du parquet, notamment car les juges ont noté la soumission chimique de certaines victimes. À peine rouvert, le voilà déjà refermé. Le guichet MaPrimeRénov', qui avait été remise en service mardi après 3 mois de suspension et victime de son succès, le nombre impressionnant de connexions sur le site a fait bugger le dispositif d'aide à la rénovation énergétique. Quelques centaines de dossiers seulement ont pu être déposés, alors que la limite avait été fixée à 13 000 demandes avant le 31 décembre. L'Agence nationale de l'habitation promet une remise en service du site pour le début de semaine prochaine. Et puis en foot, les Lyonnais se sont imposés hier soir 2-0 contre les Autrichiens de Salzbourg pour la deuxième journée de la Ligue Europa. Victoire aussi du LOSC contre l'AS Rome 1-0. En revanche, les Niçois ont dû s'incliner face aux Turcs du Fenerbahçe, score final de 2-1.
C'était le journal de Lucas Nitsch. Bonne journée, ou plutôt bonne nuit, Lucas. Avec un vendredi un peu humide et gris, une perturbation arrive sur le nord du pays et la pluie va donc arroser la Bretagne ce matin. Averse résiduelle aussi sur la Provence et ciel plutôt nuageux ailleurs. Au fil des heures, le temps va s'éclaircir sur le sud-Aquitaine, le sud-est et le nord-est. Les pluies persisteront sur le nord-ouest et gagneront le nord de la Nouvelle-Aquitaine, le Centre-Val de Loire, la Champagne-Ardenne et l'ensemble du Nord-Est en cours de nuit. Le vent de sud-ouest se renforce en Bretagne et près de la Manche, surtout en soirée, jusqu'à 80 km/h en rafale sur les côtes. En Languedoc-Roussillon, c'est la Tramontagne. Et en Provence, le vent d'ouest qui souffle autour de 50 km/h. Côté température, c'est frais, entre 3 et 15 degrés ce matin du nord au sud, 14 à 25 cet après-midi, 14 à Strasbourg, 16 à Nancy, 17 à Lille, 18 à Brest et Paris, 19 à Lyon, 21 à Clermont-Ferrand et Rennes, 22 à Bordeaux, Nice et Marseille, 24 à Toulouse et 25 à Perpignan.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure de prendre la lumière dans la chronique de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Dans votre playlist, vous nous parlez d'une chanteuse solaire, l'anglaise Alani.
Mais il est encore un peu tôt pour parler du soleil, hein, qui devrait se lever autour de 7h45, selon l'endroit où vous vous trouvez en France. Pourtant, cette Sunshine Music, c'est le titre de son album, irradie déjà. Et écoutez-moi ça, Alani.
This is why, when you tell me that you love me, something you said, oh, 1,000,000 times. I pretend that I don't care and act like I didn't hear. I even fight back a smile, and this is why.
C'est pourquoi quand tu me dis que tu m'aimes. This is why, mais est-ce qu'il vous faut vraiment d'autres raisons, Marion, après ce qu'on vient d'entendre?
Non, pas tellement.
This is why, c'est la première chanson qu'Alani a écrite à ses débuts, mais elle n'a trouvé sa forme qu'ici pour son troisième album. Tu n'as pas besoin de mots pour savoir, eyes don't lie, les yeux ne mentent pas. Les mots, les sons d'Alani agissent un peu comme ces fleurs avec lesquelles elle pose sur la couverture de ce nouvel album. Il y a un dahlia, il me semble, ici.
On demandera à Alain Baraton.
Visiblement, le motif floral est récurrent chez elle. Vous vous souvenez que pour son premier disque, You and I, en 2016, elle chantait Cherry Blossom, le cerisier en fleurs. Elle avait même enregistré une version en japonais pour chanter ce Sakura. Alors, il y a assurément une grâce à l'œuvre dans la musique d'Alani, plus versatile encore dans ce troisième album. On pense à de la bossa par moments, au calypso même, et même à un tango boléro dans ce tif plein de changements de climat.
Call me savage, ape me. You mock then take all my identity. My bronze, gold mask, my jewels and your stash. All the lies that you
fell. chant chargé d'histoire d'Alani. Vous me disiez, Mathieu, que cette chanson faisait écho à une autre beaucoup plus ancienne.
Oui, une autre plus ancienne des années 60, Slave, du roi du calypso Mighty Sparrow, qui évoque la traite des Noirs. Alani cultive cet art du voyage dans le temps. On pense au jazz, à la comédie musicale, qui est sa formation de départ, sans pour autant que ça sonne autrement que tout à fait contemporain. Si on parle des racines, Alani est née à Londres, elle a grandi dans l'ouest de la ville, au sein de la diaspora des Caraïbes. Ses parents sont originaires de la Grenade. Damon Albarn, le chanteur de Blur, qui avait contribué à la faire connaître, celle qui avait été sa choriste au début, eh bien, il ne tarit pas d'éloges à son sujet. Pour ce troisième album, la chanteuse s'entoure d'excellents musiciens. Il y a Marvin Dolly, d'abord le guitariste, c'est un New Yorkais de Trinidad. Il y a une Hollandaise aux percussions, un cuivre jamaïcain. Il y a même trois Français, tout ça pour mieux sertir au mieux les chansons d'Alani. On va écouter Something You Said, une chanson écrite selon Alani en 15 minutes sur le chemin entre sa maison et le studio. Je vous souhaite d'être aussi précis sur votre chemin du matin avec Alani.
Something you said the other night made me believe that I am falling into your arms. A new paradise, could it be you? And I have started.
Something you said. Quelque chose que tu as dit, Mathieu.
Oui, c'est Alani. Beau, hein.
Oui, c'est joli. À retrouver dans la playlist de France Inter. Et vous, Mathieu, on vous retrouve ce soir à 21h.
Et je remets le son. Je vous parlerai de la bande-son d'Une bataille après l'autre, le film de Paul Thomas Anderson, qui a une bande-son géniale de Johnny Greenwood. Je vous parlerai du nouveau Taylor Swift, bien sûr. Et puis d'un groupe qui s'appelle Meul.
Meul.
Ce soir. Ouais, ouais, comme ça.
À vous allez nous dire des choses à ce soir. 5h42 sur France Inter. Le grand reportage ce matin sur un sujet trop rarement évoqué dans les politiques de la ville, tant les quartiers sont présentés exclusivement comme des territoires jeunes. Or, près de 20% de la population des banlieues a plus de 60 ans et le vieillissement va devenir un enjeu pour les villes concernées. Entre l'habitat, l'urbanisme, parfois un environnement difficile, aujourd'hui rien n'est fait pour les plus âgés dans ces quartiers. Vanessa Descoureaux s'est rendue à Sevran, en Seine-Saint-Denis, dans un tiers-lieu, un endroit tout récent, qui cherche à lutter contre l'isolement de ces personnes âgées.
C'est un rez-de-chaussée vitré au milieu des immeubles, le tiers-lieu Mazarik a ouvert en juin. On y rencontre Mohamed, 73 ans, c'est un ancien couvreur.
Dans les toits, moi je suis comme un oiseau.
Un divorce après 41 ans de mariage. Il vit aujourd'hui, et c'est une chance, dit-il, seulement au troisième étage d'un immeuble, mais il vit terriblement seul.
Je ne vais même pas au café.
Vous ne souffrez pas de la solitude ?
Des fois, oui. Ça, on ne peut pas nier. Il ne faut pas dire, c'est tout.
Vous venez souvent ici, dans cet endroit, dans ce tiers-lieu ?
Oui, ouais. Surtout tous les jeudis. Il y a un café, on fait le jeu. Je me défoule. De toute façon, je viens que ici, il n'y a pas un autre endroit.
Ce jour-là, Mohamed est quasiment perdu au milieu d'une dizaine de femmes du quartier parce que c'est atelier cuisine.
On va faire aujourd'hui un curry de pois chiches. On va parler de cuisine durable et aussi petit budget, donc d'où l'intérêt de cuisiner des légumineuses.
Eh ben dis donc, ce couteau-là, il est plus vieux que moi.
Quel est votre prénom, madame ?
Ouria. Et moi, je suis contente. Moi, j'avais mon genou qui me faisait trop mal. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, ce que j'ai dans mon quartier, ça va juste, je descends juste à côté. Et ça me fait oublier la douleur, ça me fait oublier ma maladie.
L'endroit est ouvert à tous, mais ce sont surtout des femmes de plus de 60 ans qui le fréquentent.
Bon, ça va, il y a les gens qui aiment.
L'idée, c'est de casser leur isolement, souvent lié à l'urbanisme de ces quartiers, explique Camille Damiano. Elle est la coordinatrice de ce tiers-lieu.
Dans notre quartier, à part le très grand centre commercial, il n'y a pas vraiment d'endroit pour se retrouver. Il y a des maisons de quartier, bien sûr, mais en fait, elles sont aussi très saturées. C'est majoritairement lié à l'urbanisme et au fait de la difficulté de se déplacer d'un endroit à l'autre. Il n'y a pas trop de transport en commun et on est un peu cantonné à sa résidence et on ne sort pas forcément, à part pour faire les courses
et
encore.
Et vieillir en banlieue, c'est un thème quasiment jamais abordé dans les nombreux plans de politique de la ville.
Et c'est à ce genre de détails qu'on peut le constater dans ces quartiers. Très souvent, les bancs ont été enlevés pour éviter que des dealers ne s'y installent pour assurer leur trafic. Et un quartier sans bancs, eh bien c'est aussi un quartier qui enferme chez elles les personnes âgées. Cet environnement hostile, c'est ce qui rend la vie de Marie pénible par moments.
Je voudrais bien partir, mais oui, j'aimerais bien. Pour l'environnement ici, il y a trop de gens qui vendent la drogue. La nuit, il faut beaucoup de bruit. Les enfants sont partis, ils ne veulent pas rester ici. Mais c'est pas facile.
Pauvreté, isolement et perte d'autonomie, c'est la triple peine quand on vieillit en banlieue. C'est le titre d'un rapport publié cette année par les Petits Frères des Pauvres, dans lequel les collectivités, les bailleurs sociaux sont interpellés pour enfin s'emparer du problème. Yann Lanier est le délégué général de l'association.
Il y a plusieurs fils à tirer sur cette question. L'adaptation des logements, l'adaptation globale des quartiers. Un nombre considérable de logements sociaux et de quartiers n'ont soit pas d'ascenseur, soit il y a un vrai problème récurrent sur les pannes d'ascenseurs, et ça peut paraître anecdotique, ça ne l'est absolument pas quand vous avez des tours de 15-16 étages et que vous avez des gens qui sont assignés à résidence chez eux. On a des gens qui vieillissent dans le parc social et jusqu'à dans certains représenter quasi la majorité de la population.
En Seine-Saint-Denis, notoirement connu pour être le département le plus jeune de France, la part des plus de 75 ans est amenée à augmenter de 60% en 30 ans.
Vieillir en banlieue, l'impensé des politiques publiques. Un grand reportage signé Vanessa Descourou.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
Et à 5h46, c'est l'heure de contacter notre invité déjà debout, responsable d'atelier Duralex à la Chapelle Saint-Mémin dans le Loiret. Bonjour Laure Cérandon.
Bonjour.
Pourquoi êtes-vous déjà debout ?
Parce que j'aime bien prendre mon temps le matin et puis que je commence à 7h30 et que j'ai des chats, j'ai une maison à m'occuper. Donc voilà, j'aime bien prendre mon temps, j'aime pas courir le matin.
Courir donc pour arriver chez voilà. Duralex. Alors tout le monde connaît hein, Duralex, la marque célèbre de verre, de coupe de plat. À quoi ça ressemble Duralex à la Chapelle Saint-Mémin ?
C'est une grande entreprise très sociale où quasiment tout le monde se côtoie et se connaît. C'est une bonne ambiance et puis là, le moral est quasiment au beau fixe, donc on a bien redémarré, donc on est content.
On va raconter tout ça. Juste pour être un peu plus précis, 240 personnes, c'est ça ?
Aujourd'hui, on est 245.
245 et vous êtes responsable d'un atelier de 15 personnes.
Voilà, c'est ça.
Qui font quoi ?
Eh ben, en fait, ils font des coffrets, ils font des boîtes de 6. En fait, tout ce qui ne peut pas être fait par la production, enfin le cœur de l'usine, c'est fait dans un atelier à part parce que les machines ne sont pas adaptées ou ne peuvent tout simplement pas le faire. Quand vous empilez 3 saladiers ou vous mettez un couvercle dessus, ça typiquement les machines ne peuvent pas le faire.
Donc ils emballent toutes ces choses fragiles voilà. que vend Duralex. Elle voilà. ressemble à quoi votre journée ? Donc vous vous levez très tôt et puis ?
Je me lève très tôt, je m'occupe de mes chats, un petit peu de ma maison, de la vaisselle de la veille, tout ça. Ensuite, je prends ma douche, je prends mon café, je me prépare tranquillement. Vers 6h30, je vais commencer à prendre la route. J'ai 20 minutes de route pour arriver au travail. Une fois que j'arrive au travail, bah, j'ouvre les portes, j'accueille mon équipe. Et puis à 7h30, on va dans l'atelier pour faire le briefing du jour, c'est-à-dire leur donner les grandes lignes de ce qu'ils vont avoir à faire dans la journée. Je leur donne des fois le nom des clients, si je sais pour qui ils sont en train de conditionner, enfin des choses comme ça. Ensuite, bah, je retourne dans mon bureau et je reprépare, enfin je rentre la production de la veille. Je fais des changements de lieu, c'est-à-dire que je prends les palettes qui ont été produites et je les mets dans le stock. Et puis ou sur les quais, si ça part dans la journée ou le lendemain ou dans la semaine. Des fois, ça nous arrive de les mettre sur les quais de chargement. Et puis, ma journée se déroule comme ça.
Et alors, on les a tous déjà vus, hein, les verres du Ralex. Il y a aussi évidemment des saladiers et d'autres choses, mais le produit emblématique, c'est le verre. On les a tous vus à la cantine, mais c'est qui en fait les clients de Duralex aujourd'hui ?
Alors, les clients de Duralex, vu qu'on a ouvert une boutique à Orléans, bah, c'est beaucoup les Orléanais qui nous soutiennent très fortement. On a La Poste, on a Intermarché, on a Système U, on a après à l'international, vous avez Costco, vous avez il y a plein d'enseignes donc voilà.
Et vous nous disiez tout à l'heure que vous appréciez la façon dont se passent les choses, parce qu'il faut expliquer en fait que Duralex était en difficulté et l'entreprise est devenue une société coopérative il y a un peu plus d'un an. Racontez-nous.
Alors, on a été remis en redressement judiciaire. On avait des repreneurs potentiels, mais qui faisaient beaucoup de casse sociale. Ils ne reprenaient pas tout l'effectif, en fait. Il y en avait beaucoup qui étaient mis dehors. Donc, on a un directeur et puis des syndicats qui se sont acharnés pour monter le projet SCOP. On a la métropole, la mairie.
Société coopérative, donc.
Voilà, on a plein d'élus qui nous ont soutenus et qui sont venus au tribunal avec nous. Et ça a été jugé en faveur de la reprise par les salariés.
Et donc, c'est les salariés qui tiennent l'usine aujourd'hui ? Ça se passe comment ? Ça se passe bien ?
Oui, ça se passe bien. On a un comité d'administration qui se réunit une fois par mois et des assemblées générales une fois tous les ans. On a une équipe de marketing qui est nouvelle. Parce que ça, on manquait, on n'avait plus d'équipe marketing. Une équipe commerciale, c'est pareil, qui a été remontée parce que on n'avait que deux commerciaux et les lames, c'était beaucoup trop juste pour faire tout l'international et la France, hein, forcément.
Oui.
Donc, on a un directeur qui a monté son équipe. Donc, maintenant, ils sont sept. Donc, forcément, ça va mieux et on remonte tout doucement la pente. Il reste beaucoup de travail à faire, mais on est plein d'espoir.
Eh ben, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Laure Serrandon, voilà. Responsable d'atelier à La Chapelle Saint-Mémin, près d'Orléans. Merci beaucoup de nous avoir répondu ce matin sur France Inter.
De rien, bonne journée.
Bonne journée. 5h51 sur France Inter. Avant le café philo et le journal, on emmène vos oreilles au Texas. Khalid, en collaboration avec Swahili, chante The Ways. Most of them don't talk, I know. Most of them gon' fall, I know, I know. We gon' bet it all, I know, oh, oh, oh. We gon' bet it all, I know, oh. Power girl, I really wanna know your ways. I really wanna know your ways. I really wanna know your ways. I really wanna. Power girl, you've been running through my section all day. So many times, but I still have you. Show me how you do it like that. Carrying a brother is no easy on your back. I know most of them don't talk.
The Ways par Khalid et Swahili, titre sorti en 2018.
France Inter. Le 5-6.
Et vous nous donnez des idées ce matin dans Café Philo. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Marion Lourd.
Au programme, une chronique qui va plaire à toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas se laisser faire.
Nous allons en effet faire l'éloge de la désobéissance. Si
super.
Vous avez des enfants, éloignez-les peut-être un temps. Enfin, oui. C'est heure matinale, je pense que les enfants dorment.
Ça dépend.
S'interroger, je vois que vous savez de quoi vous parlez. S'interroger sur la désobéissance, c'est forcément questionner son contraire, l'obéissance. Les deux fonctionnent un peu en miroir. Pour l'historien et politologue Howard Zinn, le problème n'est pas la désobéissance, mais l'obéissance. Il est mort il y a une quinzaine d'années, mais je pense que s'il vivait toujours, il aurait des choses à dire sur la vie politique de son pays.
Et le bien fondé de l'une, l'obéissance comme de l'autre, la désobéissance, est en fait une question de circonstance, Patrick.
Exactement, Marion. Prenons deux exemples particuliers pour comprendre, je précise, qui sont évidemment très, très différents.
Oui.
L'obéissance d'Eichmann, du bourreau qu'il fut, c'est une obéissance coupable. Par ailleurs, il peut avoir une désobéissance civique, dont font preuve par exemple tous ceux qui se fichent pas mal de l'environnement, et cette désobéissance-là est répréhensible. Il n'est qu'à fouiller le port de Marseille pour constater ce que ces crétins y balancent. Loin de moi de stigmatiser en particulier les Marseillais, mais chacun reconnaîtra sa responsabilité propre.
Ce qui devrait nous faire désobéir, c'est d'être révolté par tel ou tel comportement, par telle ou telle décision. Et là, c'est un refus positif.
C'est exactement ce que dit Albert Camus dans un essai que personnellement je trouve lumineux et qui porte le titre « L'homme révolté ». Alors il y a tout un tas de révoltes. Pour Camus, la révolte de tout un chacun, la révolte métaphysique ou historique. On peut aussi parler de la révolte et de ses liens avec l'art. La révolte qui n'est pas la révolution. Écoutons Albert Camus.
La révolte, comme toutes les, comme tous les mouvements de l'esprit ou du cœur humain, c'est à la fois la pire et la meilleure des choses, et il est tout à fait naturel qu'un écrivain qui s'intéresse aux passions de l'homme autant que de son intelligence essaie de donner à ses passions la plus grande efficacité, la plus grande utilité possible sur le plan de la vie la plus simple comme sur le plan de la vie sociale. Et j'ai essayé de tirer en effet de la révolte les éléments d'une attitude qui ne soit pas une attitude de pure destruction, de pur nihilisme, ce qui s'explique assez si on veut bien considérer que je ne m'intéresse pas au nihilisme contemporain par goût esthétique ou personnel, je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser.
La révolte comme une passion humaine qui peut se dépasser, c'était Albert Camus. Pour parler des obéissances, Patricia, deux invités ce soir dans leur philo. Le philosophe Frédéric Gros, qui est auteur d'un essai intitulé justement « Désobéir », publié en poche chez Albin Michel. Et Clotilde Le Guil, qui est à la fois psychanalyste et philosophe, dans un livre intitulé « La déprise », sorti au Seuil. Elle évoque les ressorts intimes de la désobéissance. À ce soir, Patricia.
À ce soir, merci Marion.
20h10.
France Inter, partenaire de la tournée des Misérables. La comédie musicale légendaire d'Alain Boublil et Claude-Michel Schoenberg a conquis plus de 130 millions de spectateurs dans le monde. Après son triomphe au Théâtre du Châtelet et récompensé du Molière du spectacle musical, elle revient au printemps 2026 pour une tournée exceptionnelle dans une mise en scène magistrale de Ladislas Chola. Les Misérables, en tournée à Lyon, Nantes et Lille, du 18 février au 26 avril, un événement France Inter.
5h58.
La météo, avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Céline Dacosta, bonjour.
Bonjour,
bonjour Marion,
Céline.
Bonjour, et oui, elle y est revenue lui aussi.
Bien sûr.
Et c'est le retour d'un ciel plus agité.
Eh oui, avec une perturbation pluvieuse qui est en train de rentrer dans les terres ce matin par le nord-ouest et qui arrose déjà la Bretagne, la Normandie avec de bonnes rafales de vent, des pluies qui vont gagner les côtes de la Manche vers les Hauts-de-France dans la matinée. Ailleurs, ce sera surtout nuageux et puis ce scénario va se poursuivre cet après-midi puisqu'on retrouvera ces averses sur le nord-ouest, mais aussi des Charentes, région centre vers le bassin parisien, les Hauts-de-France, averses qui vont se décalé dans la soirée vers le Grand Est et pour la moitié sud, là, ce sera surtout des nuages, on l'a compris, avec un soleil voilé pour les régions les plus au sud.
Et alors, pour les températures, Céline ?
Frais ce matin, comme hier, sur le nord-est, avec quelques gelées, une moyenne de 2 à 7 degrés, 9 à 14 pour les autres, 15 à 18 près de la Méditerranée, sur le sud-ouest ou en Bretagne. Et puis cet après-midi, ce sera sensiblement la même chose qu'hier. Je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux.
Oui, les petits oiseaux.
C'est magnifique.
C'est Nicolas, notre
réalisateur. C'est la technique qui nous a rajouté
Donc voilà,
l'ambiance.
C'est très mignon. 18 à 24 cet après-midi, un petit peu moins sur le nord-est avec 15 à 17 degrés.
Et bah très bien, merci Céline Dacosta, on vous retrouve tout à l'heure.
Et merci pour les petits oiseaux.